Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous. Un apérophonie cinéma ce soir avec Gabriella Tonrio, directrice de la Cinémathèque de Grenoble. Bonsoir Gabriella.
Bonsoir.
Tu es venue nous parler de la projection du film Les yeux sans visage de Georges Franju, sorti en 1960. C'est vendredi à la Cinémathèque, 4 rue Hector Berlioz à 20h. Et cette histoire est assez terrifiante, Gabriella.
En effet, c'est terrifiant parce que c'est l'un des plus beaux films de l'univers entier, en toute modestie. Mais c'est aussi un film très important. Au-delà d'être peut-être l'une des rares incursions dans le cinéma gothique, le cinéma fantastique du cinéma français. Donc c'est vraiment un très bel essai, un très beau film de fiction et en effet qui part d'un sujet terrifiant qui est celui du scientifique fou.
Oui, c'est ça, c'est un allumé, c'est un médecin allumé. Il y en a eu pas mal dans le cinéma. Mais alors là, bon, on va en parler un petit peu des acteurs, mais c'est ce que tu peux nous dire en quelques mots, l'histoire d'ailleurs.
Eh bien, tout à l'heure, en effet, j'essayais de raconter cette histoire. Elle donne déjà des frissons. C'est l'histoire d'un homme qui cherche à arracher des visages pour rendre à sa fille un visage qui a été détruit un peu par sa faute. Donc c'est un film où se mélange cette passion du père, à la fois pour, dans la figure du scientifique fou, bien sûr, et aussi dans l'amour qu'il a pour sa fille et sa culpabilité.
Il est assisté d'une diabolique assistante aussi, mais on va en reparler des acteurs. Georges Franju, c'est un cinéaste important. Toi qui es à la Cinémathèque, il compte beaucoup, j'imagine. Il a rencontré Henri Langlois au milieu des années 30. Il participe à la création de la Cinémathèque française. Il commence par faire des courts-métrages. Il réalise notamment Le sang des bêtes en 1949. C'est filmé dans les abattoirs de La Villette et de Vaugirard. J'ai vu un extrait en préparant cette émission. C'est effrayant. Franju est un réalisateur qui craint pas de se confronter avec les réalités de nos sociétés, parfois jusqu'à l'insoutenable.
Absolument. Après, c'est vrai aussi que c'est... Donc, déjà, d'emblée, c'est effectivement l'un des saints patrons de la cinéphilie mondiale, puisque c'est un cinéaste qui, en plus de son travail artistique, s'est intéressé à la question des archives. Et en effet, comme tu l'as dit, c'est l'un des fondateurs de la Cinémathèque française. Une des plus belles salles de ce lieu porte aussi son nom. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la redécouverte des films muets, à la question des séries, des séries, et qui a fait aussi de la télévision. Georges Franju, par ailleurs, est aussi quelqu'un qui a subi une forme de traumatisme quand il a vu un film que, heureusement, tu n'as pas vu, parce que sinon, je pense que tu aurais annulé l'émission tout de suite, qui est une histoire de trépanation. Et c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux images médicales très vite et qui a vu dans le dispositif, justement, d'enregistrement d'images médicales, une forme de ressort pour, justement, créer la terreur, puisque pour lui, les images les plus effrayantes qu'il avait vues, c'était celle donc d'une trépanation qui a une apparition extrêmement impressionnante. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a lié aussi l'amour des animaux et c'est dans cette perspective qu'il était allé filmer la cruauté et la barbarie qu'il retrouvait en fait sur le mode industriel dans les abattoirs. Et effectivement, le film est impressionnant comme tu l'as dit. C'est un film aussi difficile de soutenir en termes de regard, mais aussi on imagine mal à quel point la couleur, les contrastes et même les odeurs sont absentes du film, mais Georges Franju évoque la difficulté de ce tournage et l'importance aussi qu'avait pour lui de montrer ces images. Après, il a justement continué par la suite la question documentaire, mais c'est vrai aussi qu'il a utilisé un peu ce ressort de la terreur face aux images impressionnantes de la mort et de la représentation du sang dans notamment Les yeux sans visage, son grand film d'horreur fantastique.
Oui, alors certaines scènes sont vraiment très choquantes. Est-ce que tu sais comment a été reçu le film à sa sortie ?
Alors, c'est étonnant parce qu'effectivement, il y a eu toute une... Donc, le film a été assez bien accueilli par le public. Il a été encensé par la critique tout de suite. Il ne faut pas oublier que Franju aussi, je me permets de faire un tout petit retour en arrière, Franju est un cinéaste que je trouve essentiel parce que c'est lui qui relie, en quelque sorte, un cinéma classique au cinéma moderne français. C'est-à-dire que le film est contemporain de la nouvelle vague. On est à la fin des années 50. On est dans ces nouvelles tentatives justement de toute une génération de jeunes qui arrivent avec l'envie d'en finir avec ce qu'ils appelaient le cinéma de papa, si, pour aller vite. Mais Franju, lui, était très ancré dans le cinéma muet, ses imageries médicales. Et puis, il veut faire du cinéma fantastique. C'est un grand lecteur de romans gothiques. Et c'est lui qui permet en plus de relier comme ça plusieurs générations. Et notamment, par exemple, et il sera assisté de Claude Sautet, qui par la suite va devenir un cinéaste très connu du cinéma français. Et en même temps, son chef opérateur, et ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que ça joue beaucoup dans le film, son chef opérateur récurrent est Eugène Schuftan, qui est l'inventeur de ce qui s'appelle l'effet Schuftan, qui était les premiers trucages du cinéma expressionniste allemand. Donc il fait comme ça un lien entre le cinéma muet, le cinéma de la deuxième partie, de la seconde partie du XXe siècle, donc cinéma plus moderne, et il est vraiment un pivot de toutes ces époques. Le film est reçu, c'est son deuxième long métrage, donc encensé par la critique tout de suite, qui y voit le côté poétique, l'incursion dans l'horreur fantastique et le gothique pour la première fois en France, et tout de suite arrive le scandale. Scandale mitigé, hein, on n'est pas chez d'autres cinéastes plus scandaleux, mais en fait il y a la chronique de quelqu'un qui s'évanouit dans une salle de cinéma. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine ? Je pense que c'est un tout petit peu excessif. Le film a une forme de suggestion, justement. C'est vraiment l'art du montage qui provoque ces réactions très fortes. Et donc, il y a eu la légende des yeux sans visage, avec ces contrastes entre la figure noire du scientifique fou et de sa fille tout angélique, tout en légèreté, aux allures presque féeriques. Et ça a impressionné beaucoup, effectivement, à l'époque. Donc c'est un film dont on a énormément parlé, qui a une descendance, en plus, peut-être qu'on en reparlera, mais qui a une descendance très très importante dans le cinéma contemporain.
Oui, alors Parfum de scandale, c'est peut-être pour ça que Les yeux sans visage a atteint le statut de film culte assez rapidement. Alors est-ce qu'il y a d'autres... oui, il a influencé beaucoup de monde, on va en parler et aussi l'entendre.
Absolument. C'est vrai que autre chose qui joue beaucoup pour le renom du film au moment de sa sortie et qui pour nous doit être essentiel, c'est que parmi ses scénaristes, il y avait le très célèbre tandem Boileau et Narcejac, qui étaient donc les responsables, enfin les spécialistes un peu maîtres de l'horreur et du polar, et donc qui ont accompagné les films de Clouseau, mais surtout bien sûr de Hitchcock, qui était à l'origine du scénario de Vertigo. Et donc on a Boileau, Narcejac, un chef opérateur de l'expressionnisme allemand, une actrice aux allures de fée, un acteur splendide et le génie de Georges Franju avec cette histoire d'horreur fantastique. Eh bien, moi, je pense que ce sont les éléments pour un film inoubliable.
Bon, bah alors, courez-y. On va faire une première pause musicale avec un titre de circonstance. C'est Billy Idol, Eyes Without a Face. Could bring a fall.
face, got no human grace, your eyes without a face.
Billy Idol, Eyes Without a Face, en 1983 sur Campus Grenoble 90.8, un titre directement inspiré du film dont on parle ce soir, un film de Georges Franju, Les yeux sans visage. C'est projeté vendredi à 20h à la Cinémathèque de Grenoble. C'est un vrai film d'horreur. Âme sensible, s'abstenir. Et alors, hasard du calendrier ou pas, on sera vendredi 13. Gabriella, vous avez fait exprès à la Cinémathèque.
Oui, complètement. Bon. Chaque chose a une correspondance très importante à la Cinémathèque. Mais âme sensible, je pense au contraire, se précipiter à voir ce film. Parce que tout est dans la suggestion. C'est vraiment la magie du cinéma. Et c'est un film, justement, qui n'a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas, il n'y a pas un étalage de sang. Ce n'est pas un film de genre. En revanche, c'est un film qui est le terrible, en fait, dans Les yeux sans visage, c'est qu'on y croit. C'est-à-dire que dans cette maison où on a caché tous les miroirs, où on a que des âmes en peine, des animaux enfermés, ce monde hanté, en fait, ce qui est le plus terrible, c'est que c'est le nôtre. Et c'est pour ça que c'est extrêmement inquiétant et que c'est un film qui est tout de même, qui a beaucoup marqué les esprits. La chanson qu'on vient d'écouter, et je salue ma collègue Jenny, avec qui on a beaucoup écouté cette chanson, c'est, on est la preuve. savent justement que même dans les années 80, eh bien, Les yeux sans visage était aussi un film très important.
Ça continue à résonner. D'ailleurs, il y a eu des films effrayants bien avant Les yeux sans visage. Tu l'as évoqué avec les influences qu'on imagine de Franju, enfin qu'on imagine ou pas d'ailleurs. Mais bon, il y a Murnau, il y a le cinéma allemand qui est quand même bien effrayant aussi. Mais est-ce que celui-ci pose tout de même les bases d'un certain cinéma à venir ?
C'est intéressant comme question, c'est même passionnant parce que autant Georges Franju est un héritier justement du cinéma des années 10, des séries de feuillade, il a fait des remakes justement de Judex. C'est quelqu'un qui nous relie à la cinéphilie du temps muet, à Murnau, à Fritz Lang. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas véritablement eu un héritage. C'est-à-dire que, malgré quelques exceptions radieuses, il n'y a pas eu d'ancrage du fantastique ou du film d'horreur en France. Après, les allusions aux yeux, sans visage, dans le cinéma italien, par exemple, dans le giallo, sont évidentes. Le travail sur les cuirs, sur les matières aussi, qui traversent comme ça aussi une esthétique que Franju aide à forger et qu'on va retrouver dans les gialli des années 70, par exemple en Italie, c'est très important. Après, il y a aussi toutes les hommages qui ont été faits dans certains films de fiction. Par exemple, quelqu'un comme Léos Carax, à notre époque, a fait jouer, par exemple dans Holly Motors, il a fait jouer Edith Scob, l'actrice des yeux sans visage, avec son masque, pour faire porter à nouveau ce masque qui avait été essentiel. Et dans le cinéma de Léos Carax, donc on trouve comme ça des allusions à Franju et à la période qu'il a incarnée. Après, par exemple, dans le cinéma américain aussi, le film de John Woo, Volte-face, par exemple, a été aussi... Il y a des plans et le découpage sur le visage qui sont repris. À nouveau, on est dans la science-fiction, peut-être avec un peu plus de sang et des films en couleur. Mais il faut dire que ce cinéma gothique, ce cinéma de l'épouvante, et ce cinéma aussi, mais profondément généreux, qui est celui de Franju, dans ce film, eh bien, il n'a pas eu beaucoup d'héritage.
Il est assisté de Claude Sautet, on en a parlé dans la première partie de cette apérophonie. Il adapte Les yeux sans visage, il y a Boileau-Narcejac aussi, et qui travaille aussi sur les diaboliques de Georges Clouzot. Il y a une dimension quand même un peu fantastique aussi dans le film. On ne sait pas trop à certains moments quand même si on est dans la réalité. Enfin, on est quand même le plus souvent dans quelque chose de réel, mais il y a une dimension fantastique dans le film de Franju.
Complètement, complètement. Parce qu'on quitte justement l'horreur du cinéma, on quitte l'horreur chirurgicale, et en fait on bascule effectivement vers quelque chose de fantastique. Et c'est là le génie aussi de Boileau-Narcejac. Boileau-Narcejac joue tellement avec les nerfs du spectateur, on peut faire l'aller-retour. C'est-à-dire qu'on bascule du réalisme au fantastique, on ne s'est même pas rendu compte qu'on est dans une autre dimension. Dans Les yeux sans visage, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément crédibles, ne serait-ce que ces opérations terribles, mais je pense qu'il faut beaucoup d'audace aussi, et notamment à l'époque, pour construire comme ça un classique de l'épouvante, avec des éléments fantastiques, avec des éléments gothiques, tout en restant actuel, et avec une économie de moyens qui était admirable. Donc c'est pour ça que moi, je pense que c'est un film fait pour les gens qui aiment le cinéma, pour les gens qui s'intéressent au montage, parce que tout est dans vraiment la magie de la construction, de la mise en scène et du montage au cinéma.
Alors parlons un peu des acteurs. Alors il y a Pierre Brasseur, c'est le docteur Génossier, Edith Scob, Christiane, sa fille, Alida Valli, Louise, l'assistante du docteur. Moi j'ai trouvé que c'était un peu elle, l'injonction à la beauté.
Alors effectivement... Le film s'inscrit dans notre cycle Bellissima, qui est un cycle qui veut commenter à sa manière, approcher cette injonction à la beauté. Et il était essentiel qu'étant un vendredi 13 et en ayant ce tribut éternel à Georges Franju en tant que fondateur de la Cinémathèque française, il fallait revenir sur les classiques et voir comment ce film travaille justement l'injonction à la beauté féminine. Alors effectivement, Alida Valli, qui était une femme splendide, une diva du cinéma italien, le personnage du Senso de Visconti, donc elle porte avec elle une mythologie de la beauté et du glamour, et ici on la retrouve avec un clin d'œil très très beau justement à sa beauté dans le cinéma classique italien. Et justement, et la beauté de l'autre femme aussi, de la fille d'Edith Scob, elles sont prises comme quelque chose d'irréel et de l'ordre du prodige chirurgical. Or, c'est le moment où on découvre les vrais visages de ces femmes. Et effectivement, il faut qu'elles aient un beau visage, parce que c'est l'obligation de ces femmes, et d'où on cherche à assassiner des jeunes femmes qui sont belles, il faut qu'elles soient belles, et surtout parce que c'est la réussite de cet homme, ce personnage un peu faustien, incarné comme tu l'as dit par Pierre Brasseur, et donc c'est aussi son œuvre d'art à lui. Donc c'est doublement critique, je trouve, ce film par rapport à l'injonction à la beauté, parce que on fait un clin d'œil au spectateur qui connaît le vrai visage glamour de ces actrices, et on le représente dans le film comme la réussite de cet homme qui est une sorte de génie maudit. Et donc ça nous semblait être vraiment en plein dans le questionnement contemporain des injonctions à la beauté féminine.
Alors génie maudit, mais bon, c'est un monstre, Pierre Brasseur. Alors pour les gens qui ont, bon, c'est un film connu, Georges Franju, mais je le connaissais plus dans Les Enfants du Paradis, c'est l'immortel Frédéric Lemaître, et puis c'est le personnage de Dimanche dans La Vie de Château de Rapneau.
Absolument.
Donc c'est un personnage drôle et fantasque, et là, c'est pas, il a eu d'autres rôles comme ça, très durs.
Oui, c'est un personnage en plus qui était, qui portait, surtout à l'époque de la sortie du film, d'où aussi l'immense résonance qu'a eu la sortie du film de Franju. C'est quelqu'un qui était très connu au théâtre et qui portait cette sorte de gravité. C'est un grand monsieur, et avec cette voix qui est devenue donc aussi emblématique. Voilà, il y avait une sorte de stabilité dans son statut d'artiste à l'époque, et c'est vrai qu'il joue, on joue beaucoup avec sa présence, et ses apparitions sont à chaque fois effrayantes. Et c'est là à nouveau le génie de la mise en scène de Franju, c'est-à-dire que quand il arrive à la morgue, quand il traverse l'espace d'un cimetière, il est tout de suite inquiétant, parce qu'il porte avec lui comme ça le génie et toute cette profondeur du noir qui devient une couleur très complexe, portée par lui et donc aussi par sa secrétaire, son assistante, sa maîtresse et sa créature, mais qui est splendide. On n'est pas dans la créature de Frankenstein, et on n'est pas dans le burlesque de cette créature ingrate qui assiste le savant fou. Là, c'est une femme splendide et qui porte un redoutable imperméable noir brillant.
Alors, pour apporter un peu de légèreté, d'ailleurs, dans la famille Brasseur, il y a Claude, son fils. Alors, il fait plus qu'une apparition.
Ouais.
C'est
le pauvre.
Bon, oui, voilà. C'est ça. Il est devant papa, alors que, bon, Claude Brasseur, on le connaît dans des rôles ou dans des films nettement plus légers. Je ne peux pas m'empêcher de me remémorer Daniel dans Un éléphant. Ça trompe énormément. Il a un beau rôle dans Une histoire simple de... Puisque j'avais envie de sauter aussi.
Oui, c'est vrai. Et ben voilà, il a la continuité aussi, justement, avec sauter.
C'est ça.
Et après, bon, il joue aussi dans... Mais un rôle un peu de séducteur, un peu raté,
c'est
dans
ça.
Bande à part.
Ah, oui, dans Bande à
part.
Donc,
il est aussi chez Godard. Mais c'est vrai que, à nouveau, effectivement, il est face à ce scientifique fou, ce génie faustien comme ça, incroyable. Il y a ce policier qui est un peu malin, mais c'est vrai que là, et là c'est du Bois Lonnard, Jacques plein, c'est-à-dire la police, elle fait absolument rien. Mais ils sont là. Voilà, c'est un policier, c'est un polar, parce qu'il y a la police, même s'ils font absolument rien et qu'ils ont failli rater justement leur espionne.
Oui, ça passe pas loin du fiasco. Mais dans Les yeux sans visage, donc il y a Alida Valli, l'actrice italienne. Et alors, si on parle aussi évidemment d'Edith Scob, qui joue la jeune fille. Elle joue Christiane, c'est la fille du docteur. Dans le film de Franju, on ne voit jamais son visage. Alors bon, pardonnez-moi de dévoiler un petit peu ça, mais elle dit « ma tête me fait peur, mon masque me fait plus peur encore ». Voilà, donc,
C'est un vrai pari qui existe dans d'autres films, notamment dans des polars américains, où on représente justement la chirurgie esthétique comme... voilà, il y a tout ce masque chirurgical, et au moment où on découvre un visage, eh bien, c'est toujours un moment clé. Et donc, on ne sait plus si on joue avec le visage, le vrai visage de l'acteur ou pas. Et ce masque, effectivement, il est intéressant parce que le masque des yeux sans visage, c'est l'un des premiers masques qui a été fait en latex. C'est une matière nouvelle à l'époque. Et donc, ça donne à la fois cette forme d'immobilité, mais aussi de mobilité quand elle parle, qui est absolument effrayante. Parce qu'en plus, elle a justement ce physique, je disais, un peu éthéré, un peu aérien, comme une fée. Et on travaille justement l'opacité des blancs qu'elle porte. Elle est systématiquement habillée avec des belles robes brillantes et tout ça. C'est une petite fille gâtée que son père, à qui son père veut faire un cadeau. Mais le cadeau, c'est le visage d'une autre. Donc, il y a toute cette thématique. Et c'est vrai qu'elle apporte, elle a déjà apporté une forme d'étrangeté par sa beauté même dans d'autres films de Franju, notamment le film précédent qui se passe dans un asile psychiatrique et où elle apparaît un peu comme une figure d'illuminée. Et en fait, elle va avoir peu de rôles au cinéma. Il y aura une grande éclipse dans sa vie en termes de jeu. Elle apparaît à la fin de sa vie dans des registres beaucoup plus étranges et comiques. On la voit chez Raoul Ruiz, elle apparaît dans Vénus Beauté de Tony Marshall, elle apparaît chez Léos Carax, où on voit ce visage très marqué de quelqu'un qui a dû être une très belle femme. Et d'ailleurs, on voit comment son visage est, justement, puisque son visage est censé être un masque, comment à un moment il est malaxé, il est attaqué par la pourriture. Et ça, c'est très dur à voir au cinéma. C'est-à-dire voir de beaux visages d'actrices, de divas, qui vont être comme ça, traités comme un matériau soumis à la pourriture. Et bien ça, c'est quelque chose qui est intolérable pour le spectateur.
On va se plonger dans l'ambiance du film avec deux extraits musicaux. C'est Maurice Jarre qui compose la musique. Tout jeune, ouais. C'est une de ses premières partitions. Je vous propose d'écouter deux extraits.
Thank you.
Maurice Jarre, la musique du film Les yeux sans visage de Georges Franju, et c'est à la Cinémathèque de Grenoble ce vendredi à 20h. Ne manquez pas cette séance, c'est un film culte à voir absolument. Il est proposé dans le cadre du cycle Bellissima et on est toujours avec Gabriela Trujillo de la Cinémathèque. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce cycle? Tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais aussi sur les films qui sont à venir.
Absolument. Alors, il y a une chose aussi, c'est que ce film est en effet un film culte et on a le souci aussi de présenter aux spectateurs une bonne qualité de visionnage. Et c'est pour ça qu'on présente la version restaurée. C'est une version qui avait été présentée au Festival de Cannes il y a quelques années. Et c'est vrai que, bon, Eugène Schuften, le chef opérateur, n'étant plus là, l'équipe qui s'est quand même assemblée autour de la restauration a eu le souci justement de redonner l'éclat à ces contrastes entre les noirs qui représentent le médecin fou et le blanc avec la fille, les colombes, toute la question de la pureté. Et ces ambiances un peu oniriques, ce monde un peu hanté, il est reproduit et je pense que la qualité de l'image, elle est extrêmement importante. On a entendu une très belle musique qui vient du film et qui a qui dit tout aussi du film à la fois dans cette forme un peu enjouée et en même temps qui devient toujours un peu inquiétante. Et c'est pour ça que le film n'est pas que un film d'horreur, c'est aussi un film très sensible, très généreux et un peu inoubliable. Donc il nous semblait essentiel de mettre dans notre cycle Bellissima. Et comme tu l'as rappelé, en effet, c'est un cycle qu'on a voulu, qu'on a rêvé, parce qu'on pense que le cinéma, par ses propres moyens, a beaucoup de choses à dire sur l'époque à laquelle on vit. Et le cinéma, fait par des hommes, fait par des femmes aussi, bien sûr, dit beaucoup sur les injonctions, les diverses injonctions à la beauté et à la perfection qui existent et qui pèsent soit sur les comédiennes, soit sur les actrices, soit sur les personnages, comme on voit dans Les yeux sans visage, avec ces deux femmes qui sont aux antipodes, mais où il y a une seule chose qui compte, c'est que le chirurgien est là pour faire une œuvre d'art qui se traduit dans la beauté du visage des femmes. Donc le reste du cycle se poursuit effectivement jusqu'à la fin du mois de janvier, avec notamment la projection du film de Luchino Visconti, Bellissima, qui donne son titre au cycle, et qui est un des films de Visconti peut-être les moins connus, où Anna Magnani, cette actrice mythique du cinéma italien, a juste une idée en tête, c'est faire en sorte que sa fille soit célèbre et soit admise comme actrice. Donc elle lui fait courir des castings, etc. Et c'est une forme, là on comprend la beauté, l'obligation de la beauté comme le seul moyen d'avoir de l'amour. Et donc c'est vraiment très, c'est un film très, très important. Je vous invite à voir le programme sur le site, le détail des dates. Et puis il y a aussi le film de Gus Van Sant. Là, je pense, pour les nouvelles générations, un cinéaste essentiel, avec son film Prêt à tout, où c'est peut-être, de mon point de vue, le meilleur rôle de Nicole Kidman, où elle essaye justement tout, elle est prête à tout, pour être la plus belle et pour être présentatrice à la télévision. Donc quelques dates comme ça autour de, enfin quelques rendez-vous qui continuent de nourrir ce cycle, qu'on a eu beaucoup de plaisir à présenter, à faire découvrir aux spectateurs, donc que ce soit sur le mode documentaire, sur les modes de la fiction, plus sur l'expérimentation. En tout cas, je vous invite vraiment à venir franchir le pas de cette cinémathèque à la salle Juliette Berthaud pour les découvrir ou les redécouvrir.
On y court. Et les dates seront sur le site de l'émission campusgrenoble.org. Je peux les rappeler à l'antenne. Il y a aussi Trop belle pour toi. C'est jeudi 19 janvier.
Oui, alors Trop belle pour toi, pardon. Oui. Du coup, c'est aussi très important pour nous d'accompagner le cinéma de patrimoine. Évidemment, c'est un peu notre mission. Mais donc, Trop belle pour toi, c'est une... un partenariat qu'on a avec le distributeur de ce film, parce que le film a été restauré. Et au cours de l'année 2023, on aura toute une série de films de Bertrand Blier qui vont ressortir en salle. Et nous, on a réussi à avoir pour notre cycle Bellissima, l'avant-première de Trop belle pour toi, qui est un film justement qui parle de la beauté et de ce qui se cache derrière la beauté. Et on sait que parfois, contrairement à ce que croyait Anna Magnani chez Visconti, ce n'est pas toujours l'amour qui se cache derrière la beauté. Donc effectivement, trop belle pour toi le 19 janvier. Merci pour le rappel.
À voir et à revoir. Merci d'avoir été avec nous dans cette apérophonie, Gabriella. On espère te retrouver très bientôt pour parler à nouveau cinéma. Avec nous pour réaliser cette émission, Hubert à la technique. Merci beaucoup.
Merci Hubert.
Bonne soirée sur Campus.
Au revoir.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !